Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kairo.
RMC. Inbound the card right to Jordan, time winding down, Michael for three, yeah, yeah, yeah!
Basket time.
Final seconds, Bryant for the win, bang!
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr avec la Dream Team, Fred Veil, Stephen Brun, Alec Biggerstaff. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Salut mon révolutionnaire.
Nous sommes en plein dans les finales NBA et bien sûr, c'est un Basket Time spécial finale NBA avec un menu très simple mais délicieux. J'espère qu'on va se régaler. Les Warriors sont-ils toujours favoris ? Oui, Boston a repris l'avantage du terrain. Ce sera le premier débat. La NBA se résume-t-elle à un concours à 3 points ? Fred, c'est un peu ce qu'on voit en ce moment, non ? Ça doit pas te plaire, ça, à toi.
Bah, c'est pas ce que je préfère.
Ouais, et on s'oriente de plus en plus vers ça, non ? Qu'est-ce que t'en penses ?
C'est assez logique, oui.
C'est pas nouveau, Pierrot.
C'est pas nouveau, mais est-ce qu'on n'atteint pas un trop-plein, là ?
Est-ce qu'on est à son paroxysme ?
Ouais, on va se poser la question. Le débat historique fera la part belle à Draymond Green, personnage central de ces finales, personnage central des Warriors. Quel est le joueur le plus vicieux de l'histoire des finales, selon vous ? Est-ce qu'il s'agit de Draymond Green ou d'un autre ? Et puis notre quiz, la thématique cette semaine, ce sera le tir à 3 points, justement.
Three point shot,
yes. Three point contest.
C'est comme Benoît Paire. T'es pas dans le classement, toi, en tout cas.
Moi, je ne suis pas dans le classement.
C'est quoi ta spécialité, Pierrot, en tant que joueur de basket? Quand tu vas sur un playground avec ton fiston,
c'est deux moves, je pensais pas entendre le même.
Le go-to move, c'est Pierrot. Quelle est ta qualité première, Pierrot?
J'essaye de faire le moins de airball possible.
Voilà. D'accord.
C'est ça ta spécialité?
Moi, je suis archi nul en basket.
Mais tu prends des tirs de loin quand même ou?
Je prends rien.
Ça veut dire que t'es un shooter.
Non, moi, je suis. Non, ma seule qualité, je pense, elle est défensive.
C'est vrai.
Comme je fais 1m75, si tu veux.
Tu sais que Pierrot, il doit défendre comme les joueurs de hand, tu sais,
Moi, je pense que je suis le mec que j'ai choisi en dernier à plouf au basket.
C'est toi le Draymond Green français un peu sur les playgrounds.
Ah,
Vislar.
J'irai pas jusqu'au
coup de nez, pam.
Coup de nez, le coup de nez, je peux le mettre. Ouais. Donc voilà le programme Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Et donc on démarre sur cette finale.
It's the NBA Finals.
Brown with the show and go through the contact and one. Jaylen Brown sizzling. Tatum for three. Man, he is on fire here. Curry cooking. A colossal three. Golden State has a lot of time. Poole with the ball. Launches. Oh! Money!
Ça, c'est de la vraie bonne musique.
Alors... Boston a récupéré l'avantage du terrain en allant gagner le premier match à San Francisco. Une question toute simple, puisqu'on avait insisté sur l'avantage du terrain dans cette finale. Golden State est-il toujours favori de cette finale? Alors, il est vrai qu'il y a eu des circonstances particulières, puisque Boston a gagné ce match dans un quatrième quart-temps invraisemblable de réussite. 40 points inscrits grâce à un 9 sur 12 à 3 points. Donc, c'est quand même surréaliste. Ça n'arrivera pas à chaque match. 51% de réussite au total. Mais Golden State a gagné le deuxième en sifflant, 107 à 88. Ils se sont même permis de faire tourner sur la fin de match. Qui veut commencer ? Est-ce que pour toi, Golden State est toujours le favori, Fred ?
Pour moi, Golden State est toujours le favori parce
pour
que effectivement,
tu as
raison. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, un des meilleurs quatrième quart-temps de la saison. Clairement, donc tu reproduis pas ça, forcément. C'est un truc qui t'arrive quasiment qu'une seule fois et c'est merveilleux de l'avoir fait. Hein. C'est merveilleux de l'avoir fait surtout à Golden State, encore une fois. Mais ça, tu le reproduis pas. Par contre, il y a une constante, c'est le troisième quart-temps. Les troisièmes quart-temps sont très compliqués pour Boston une des équipes qui les négocie le mieux, c'est Golden State. Mais quand tu vois, ils ont marqué 38 points au match 1, 35 au match 2. Donc, clairement, pour moi, ça, c'est très important. Tu vois,
c'est plus important.
Ben, c'est plus important parce qu'il y a une constante et un épiphénomène. C'est complètement différent.
Alex ?
Ouais, depuis le début sur ces finales, on voit quand même qu'il y a un penchant sur l'expérience qui joue aussi. Donc, je dirais avantage Golden State évidemment là-dessus. Maintenant, c'est des finales NBA, donc celui qui l'emportera, celui qui fait les meilleurs ajustements d'un match à un autre. On a vu que c'était deux matchs totalement différents sur le match 1 et le match 2. Donc les ajustements qu'il doit y avoir pour le match 3, est-ce que Boston est capable justement de les réaliser, c'est-à-dire avoir d'autres mecs autour de Jason Tatum?
C'est les autres,
c'est les Marcus Smart, c'est les mecs autour de Tatum qui ne se sont pas montrés sur le match 2. Donc ces ajustements-là, est-ce que Boston est capable de les faire? Est-ce que Boston est capable de bien prendre en compte l'aspect du troisième quart-temps qui va être hyper important dans ces finales? L'avantage est pour les Warriors.
Tu restes sur Golden State favori, Stephen?
Moi aussi, Fred l'a très bien expliqué. Ce match 1, c'est un braquage. Un braquage complet des Celtics. Il y a une domination des Warriors pendant 40 minutes. Et puis, il y a ce quatrième quart-temps irréel, notamment de Al Horford et de Jaylen Brown, qui pour moi ne peut pas se reproduire sur la durée. Golden State perd ce premier match parce que le supporting cast, il y a des garçons qui sont passés au travers. Draymond Green, Jordan Poole, Klay Thompson. Et on reparlera d'un peu de Klay Thompson qui passe un petit peu au travers de cette finale pour le moment. La vérité a été rétablie sur le match 2. Maintenant, tu parles d'ajustement. Pour l'instant, Ime Udoka ne me plaît pas. Ne me plaît pas sur ce qu'il propose défensivement.
Steve Kerr gagne la bataille des coachs.
Ime Udoka,
il s'est ajusté déjà sur le match 2 assez rapidement, alors que Udoka n'a rien fait.
Ime Udoka, je ne vois pas ce qu'il met en place pour limiter l'influence de Stephen Curry. Puisque, soyons bien clairs, après deux matchs, Pierrot, le meilleur joueur de ces finales NBA, c'est Stephen Curry. Il n'a pas fait des choses. Il a fait du Steph Curry. Il n'y a pas eu de match à 50, il n'y a pas eu de 10-3 points. Il a fait du Steph Curry. Sauf que tous les tirs que met Steph Curry, que ce soit sur le match 1 ou sur le match 2, viennent d'erreurs défensives des Celtics sur la transition. Ils sont trop bas, ils passent en dessous sur les pick and roll, ils se font punir. Et Ime Udoka, pour l'instant, n'a rien mis en place pour diminuer l'impact de Steph Curry, parce que les deux matchs des Warriors, c'est Steph Curry. Parce qu'à côté de ça,
À sa décharge, il gagne le premier match. Donc, c'est plus logique, entre guillemets, de faire des... Même si
tu attribues la victoire.
Je suis d'accord.
Mais dit qu'on attribue la victoire à un faux pas de Golden State plus qu'à une force de Boston.
Mais qui est-ce qui a plus l'intérêt à faire des changements quand tu perds un match? C'est forcément celui qui perd. C'est pas celui qui gagne.
L'erreur, elle est là. C'est de dire, t'as gagné le premier match.
Oui, voilà, c'est ça. Il s'est peut-être relâché sur le deuxième.
Et on est peinard. Parce que si tu diminues pas l'influx de Steph Curry, je pense que tu peux passer à la trappe. Parce que Klay Thompson... On connaît ce garçon-là. Dans les playoffs, il a eu des moments de galère, mais sur les matchs importants, il a planté des 30 et des 36 points. Le problème, c'est que Steph Curry sera au niveau de qui est le sien et qui pourra peut-être prétendre à son premier titre de MVP des finales. Mais maintenant, si tu diminues pas l'influx de Steph Curry, tu t'exposes à un coup de chaud de Klay Thompson, à un coup de chaud de Jordan Poole.
C'est ça qui me fait peur, c'est qu'il a relancé des mecs qui étaient en manque de confiance aussi là dernièrement. Donc ça peut être fatal.
Parle de qui il? C'est qui il?
Stephen Curry.
Ah, il a relancé lui, les mecs dans sa franchise.
On va en parler un petit peu tout à l'heure du nombre de tirs à 3 points pris et tout ça, mais ça fait partie de l'aura du mec aussi. Il a relancé des gars qui étaient au fond du trou. Stephen a cité tout à l'heure légèrement Jordan Poole. C'est un exemple typique du mec qui peut rayonner dans la suite de ses finales.
Est-ce que c'est pas une option de se dire, ok, de toute façon, Steph Curry, il est inarrêtable. On laisse faire son truc.
Donc on prend les autres.
Est-ce que tu te dis,
ok, tu prends 30 points, 30, 35 points par Curry, ok. Mais peut-être que si tu défends mieux sur les autres, que Klay Thompson il est pas dans le coup, que Wiggins c'est pas dans le coup, bah peut-être que t'as une chance. Ah. Après encore une fois, c'est pas ce que je prendrais, mais c'est peut-être ce qu'il a pensé.
Moi ce qui me vient, c'est la façon dont il prend les pions de Steph Curry. C'est sur les points forts de Steph Curry, c'est sur des choses qu'on connaît en fait. Moi j'ai pas vu Steph Curry mettre des paniers qu'il a pas l'habitude de mettre, tu vois, contester sur la transition, ils sont trop bas, aller le taper, aller le cogner. Maintenant ils sont à 1-1 et j'ai envie de dire le deal est bien. Les deux premiers matchs à Warriors, t'en as pris un, tu rentres à la maison.
C'est ça le truc, c'est que vous me dites
sur le papier t'es bien. Hein.
Ce qui s'est passé n'est pas normal dans le premier. Soit, alors on ne compte pas regagner de la même manière. Soit, en revanche, on peut quand même se demander est-ce qu'ils peuvent pas gagner en jouant différemment. Parce que là, ils vont à Boston.
Est-ce que les matchs peuvent pas être
juste différents? Est-ce que simplement le fait d'avoir gagné ce match peut pas tout changer au match qui arrive à domicile?
T'as mis un pied dedans dans les finales et t'as mis le premier pied dedans et t'as forcément récupéré un avantage là-dessus.
Parce que Golden State a dominé sur les secteurs qu'ils doivent dominer sur les deux premiers matchs. Est-ce qu'on peut pas imaginer que Boston maintenant domine défensivement sur les matchs qui arrivent à Boston?
Non, puis on a trop douté de cette équipe, je veux dire, par rapport à la saison bizarre qu'ils ont eu, les Celtics. On peut pas douter maintenant de leur capacité à réagir dans ce genre de contexte.
Et enfin, là où Boston peut peut m'inquiéter, moi, c'est qu'ils ont tendance à mettre trop de ballons en tribune. Mmh. Ça a été déjà le cas contre Miami, ils ont fait un match avec 4 ballons perdus.
Ça fait 19 là, je crois.
19, il y en a 11 ou 12 en première mi-temps. S'ils prennent pas soin du ballon, parce que Golden State les a agressés aussi, et là, un big up à Draymond Green qui a été fantastique défensivement.
Ils sont venus leur arracher le ballon dans les
exactement.
Bras.
Exactement. Si à un moment donné, t'es pas prêt et que tu donnes trop de munitions aux Warriors, t'es puni. Il faut prendre soin du cuir. Alors oui, c'est compliqué parce que les défenses sont fortes. Et la problématique, c'est que Marcus Smart, pour l'instant, qui est censé être le meneur de jeu titulaire, eh ben, il n'est pas bon.
Joueur très irrégulier, bon. Non ? Globalement.
Moi, j'ai du mal. Sur le poste de meneur de jeu, Marcus Smart, moi, me rend fébrile sur les montées de balles, en fait. Sur son ball handling, sur sa capacité à gérer et la sérénité.
Tu peux perdre le ballon à n'importe quel moment. Moi, je suis d'accord. J'ai cette impression aussi.
Subir cette pression-là. Et si tu dois t'en remettre à Derrick White, qui est censé arriver du banc et apporter une plus-value sur son tir à 3 points, pour la carence des Celtics, elle est là pour le moment, sur la gestion des meneurs de jeu.
Et alors, si tu étais Udoka, tu essaierais de mettre quoi en place ?
J'essaierai de mettre quoi ?
Pour les prochains matchs, là. Comment ils peuvent inverser la tendance générale qui est de dire bon, Golden State sera champion NBA.
Déjà, en termes de management, j'essaie de relancer tout mon banc parce qu'il ne pourra pas gagner des finales avec un Tatum et un moitié de Jaylen Brown, quoi. Peut-être un problème.
Non, mais je suis d'accord, sauf que c'est difficile parce que les matchs sont très serrés
ou
ils sont dominés.
Oui, mais
à ce moment-là, c'est compliqué de dire ah, ok, je vais relancer des mecs à ce moment-là.
Non, mais tu peux pas avoir l'ambition de gagner les finales avec
juste la star. Il faut que tu relances des mecs, mais trouver les bons moments, c'est pas évident quand même.
Parce que Al Horford a 26 points sur le match 1. Là, on parlait d'épiphénomène. Pour moi, ça, c'est un épiphénomène. Al Horford qui passe de 26
il y a 6 sur 8 à 3 points sur le game 1.
C'est monstrueux. Si tu dois attendre qu'Al Horford soit à 20 points de moyenne pour gagner un match, tu peux attendre le mois de juillet, sauf que les Warriors sont en train de siroter un
match 2, c'était à Longfleur, c'est son frère. C'est pas du tout pareil.
À Longfleur.
Donc, si je vous écoute, en fait, ils sont en train de toucher leurs limites, Boston.
Après,
jusqu'ici, ils ont performé. Mais
ils sont tellement maîtrise. En fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est cette maîtrise de Golden State. Et c'est pour ça qu'ils sont très forts dans le troisième quart-temps. On parlait de diesel, on a évoqué le mot diesel pour cette équipe, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en maîtrise plus qu'en diesel. C'est-à-dire que ils gèrent, et puis d'un seul coup, boum, coup d'accélérateur, et ils ont
plus. Il ne faut pas oublier que c'est une dynastie qui est devant nous aussi.
C'est pour ça, cette gestion, cette maîtrise, le vécu qu'ils ont.
Boston doit limiter les coups d'euphorie des Warriors. Ils arrivent notamment au troisième quart-temps. Il y a ce passage fou où Curry met un 3 points à 10 mètres, ou Poole met un 3 points à 10 mètres, et ensuite il met un buzzer à 14 mètres. Et ce moment d'euphorie, il faut que Boston arrive à le contrôler et qu'il n'ait pas lieu du côté des Warriors, parce qu'après la folie s'empare de tout le monde.
Mais est-ce qu'à Boston, ce n'est pas un peu plus compliqué ? Est-ce que les Warriors, ils sont plus, entre guillemets, hein, alors même s'ils sont capables de le faire à l'extérieur, est-ce qu'ils ne sont pas quand même plus capables de le faire à la maison qu'à l'extérieur, ce genre de coup de folie sur des dernières possessions ?
Je ne sais pas. Moi, avec cette
équipe-là, moi, c'est l'image que j'ai en tout cas.
Que Thompson, Poole dans une équipe, je pense que ça peut arriver partout, même à Boulazac.
Tu vas un peu loin quand même.
Bon, donc pour l'instant, on reste. C'est unanime. Pour l'instant, Golden State, gros favori de ces finales malgré l'avantage du terrain.
Boston reste les underdogs et ils sont très bien dans cette position-là.
Alors, Basket Time, on continue tous les mardis en podcast sur rmc.fr. On va justement parler et insister sur ces shoots à 3 points qui deviennent la norme en NBA.
Curry, way downtown, bang, bang! Oh, what a shot from Curry! Steps back, three-pointer, bang! Bang! At the buzzer! Steph Curry from downtown. Brown to Smart. Smart to Tatum. Sets, fires, three-pointer. Bang!
Alors, au passage, Steph Curry nous a encore offert 2-3 petits highlights délicieux. Hein. Il y a quand même eu des shoots fantastiques dans ces deux matchs, surtout le deuxième d'ailleurs, je dirais. Bon, le buzzer beater de Jordan Poole au milieu du terrain, c'est toujours sympa.
Oui.
Mais c'est limite plus impressionnant quand t'es dans une vraie action de jeu entre guillemets, quoi, parce que tu jettes du milieu du terrain, c'est pas vraiment du basket, c'est de l'adresse pure, on est d'accord, non?
Bah, le basket,
moi je suis plus impressionné
au départ, c'est quand même de l'adresse pure le basket aussi, hein.
Bien sûr, mais je suis plus impressionné par un shoot difficile où Curry sort d'une défense par exemple,
bien sûr,
que par
sûr.
Ce truc bon, qu'on se régale à regarder,
t'as rien à perdre sur ce genre de shoot,
Jordan
c'est l'avantage.
Poole, on se régale à le regarder, mais c'est pas pour moi, c'est pas ça le basket, ça c'est le show. Show NBA, bon bref.
C'est un puriste, toi.
Pierrot, tu veux faire un petit édito, j'ai l'impression.
Non, pas du tout, mais on se régale de regarder ces matchs quand même.
Moi, je suis d'accord avec toi, Pierrot. Bon. Je préfère bien sûr un panier à 3 points difficile dans le jeu qu'un Ave Maria.
Alors, la NBA est devenue un concours de tir à 3 points. C'est une évolution assez claire dont on parle beaucoup dans ce podcast depuis quelques années, sous l'influence l'influence de Steph Curry, je pense que tout le monde sera d'accord. Est-ce qu'on est arrivé à une sorte de trop-plein? Est-ce qu'on en est à la limite? Est-ce qu'aujourd'hui, la NBA se résume à un concours à trois points? Combien de débats a-t-on fait sur telle ou telle franchise? Qui a perdu ses meilleurs artilleurs? Qui doit se renforcer sur le tir extérieur? J'ai l'impression d'entendre ça chaque semaine. Hein. À vous de me le dire. Et d'abord, première question, est-ce que cette finale se jouera sur l'adresse longue distance? Est-ce que c'est ça la clé, Alex?
Oui, parce qu'il y a les Warriors.
Ouais, c'est génial, Golden State.
T'es obligé d'accepter ce jeu-là.
Et tu peux pas gagner autrement qu'en étant presque aussi fort qu'eux à 3 points?
En fait, ça peut être possible, mais moi, je regarde le roster des Warriors et des Celtics. Moi, je veux bien trouver de l'alternance. Mais à qui tu donnes le ballon poste bas? Le problème, c'est que dans ces deux équipes-là, il n'y a pas un mec à qui tu peux donner le ballon poste bas et qui peut travailler de haut panier pour mettre des points dans la raquette. Tous les big men, que ce soit Horford, Robert Williams, Kevin Looney, ils profitent des fixations ou du rebond off pour Kevin Looney. Il n'y a pas de mec dominant, en fait. S'il y avait les Nuggets, s'il y avait Joel Embiid avec les Sixers, s'il y avait des big men comme ça à qui tu peux donner le ballon et les mecs travaillent, peut-être qu'il y aurait un peu plus d'alternance. Mais là, la qualité première des deux équipes, c'est l'adresse longue distance, Pierrot.
Ouais, mais il y aurait de l'alternance, mais il y aurait quand même beaucoup de parce que c'est l'évolution logique et que ça, enfin c'est con à dire, mais en point c'est mieux que deux. Hein.
Est-ce que Boston aurait intérêt pour l'avenir proche à se renforcer par un profil comme ça à l'intérieur?
Mais problème, c'est que si tu prends
un intérieur scoreur,
mais si tu prends, ah oui, mais bon,
ça changerait rien.
Si ça peut changer leur façon de jouer, sauf que quand t'as Tatum et Brown qui prennent déjà un certain montant, quel joueur dominant aujourd'hui à NBA à qui tu peux donner le ballon en bas pourrait faire la maille avec Brown et Tatum? Mais je te parle de contrat
Mais déjà, il y a de moins en moins des vrais big men qui jouent de haut panier, ou alors c'est
Après ce qui se passe sur cette finale-là, je suis allé quand même checker par rapport à la saison régulière, il n'y a aucune différence, puisque les Warriors étaient à 39 tirs à 3 points tentés par match en saison régulière, et là ils sont dans leur moyenne, et les Celtics sont à 37 tirs par match, donc ils n'ont rien modifié par rapport à ce qu'ils ont fait en saison régulière. Il n'y a pas de nouveau, la tendance elle est que depuis 10 ans, la tendance est aujourd'hui 40% des tirs sur un match complet sont pris à 3 points.
Est-ce que ça vous gonfle entre guillemets? Est-ce que vous en avez marre de voir ce basket-là et uniquement ce basket-là gagner?
Bah alors moi c'est
moi ça me gonfle.
Moi je suis un dinosaure, donc forcément je peux pas te dire que j'aime, mais en même temps c'est mathématique. Quand tu es à 40% à 3 points et à 50% à 2 points, et ben tes possessions elles sont plus valorisées quand tu es à 3 points. Donc forcément l'évolution elle va passer par là, elle va continuer à passer par là, et peut-être que ça va même grossir, parce que concrètement le shoot à 3 points c'est une arme hyper importante, et dans les stats avancées on le met en avant. Tu parlais de big men. Souvent, les mecs disent, il vaut mieux ne pas donner le ballon au big man et prendre des shoots à 3 points, parce que le ballon vaut plus, en fait.
Le ballon vaut plus, mais ça peut simplement lasser, Alex, toi.
Moi, je vais le dire ouvertement, je suis totalement lassé. Je préférais le jeu il y a 20 ans, 1000 fois plus. Mais après, j'ai rien contre le fait, c'est comme ça aussi que le jeu est porté aujourd'hui. J'ai du mal.
Les matchs sont moins spectaculaires?
Oui,
selon toi.
Les matchs sont plus difficiles à regarder pour moi.
Ah ouais.
Ça m'empêche pas de les regarder, mais c'est plus difficile à regarder. Dans la tension d'un combat de la raquette que tu pouvais avoir dans les années 90, début 2000, bah ouais, ça me manque cette tension-là. Ça me manque la difficulté que pouvait avoir un tir à mi-distance dans un passage, un temps fort d'une équipe en troisième quart-temps, par exemple.
Mais non, c'est génial quand tu vois un shoot à mi-distance.
Tous ces moments-là, ça me manque.
Les tirs mid-range, c'est-à-dire à 2 points dans le périmètre qui sont pas dans la raquette aujourd'hui, représentent un peu plus de 10% sur un match. Ça n'existe plus. Mais on est rentré, et c'est un peu pareil dans tous les sports, dans cette data, en fait. Les mecs font des calculs et se sont aperçus. Les pourcentages à 3 points n'ont pas évolué. Je ne dis pas que les mecs sont moins à droite, plus à droite. On est à peu près les mêmes qu'il y a 10 ans. Sauf que tu en prends plus. Les mecs prennent des tirs de plus en plus compliqués. À l'époque, dans les années 90-2000, un tir à 3 points qui est pris, c'est un tir qui est grand ouvert. Aujourd'hui, n'importe qui tire à 3 points avec deux défenseurs sur le paletot. Parce qu'il se dit, si ça tombe dedans, eh ben c'est bien. On sera toujours aux alentours des 36-37%.
Et une fois sur trois, ça marque.
En plus, ça peut faire des rebonds longs. Donc, tu peux récupérer ton rebond. Il y a plein d'avantages.
Après, tu peux juste faire un comparatif avec l'Euroleague, puisque justement, tu as beaucoup moins de tentatives à 3 points en Euroleague.
Quel comparatif tu ferais?
C'est pas du tout le même jeu que de la NBA aujourd'hui. T'es encore sur les bases de ce que tu pouvais voir en NBA il y a quelques années.
C'est
basé sur la défense.
C'est parce qu'on est en retard un peu.
T'es basé sur un périmètre beaucoup plus court.
Tu sais que l'évolution, elle tend à ça aussi.
Même en Euroleague, malheureusement. Années en Euroleague, le nombre de points inscrits par match est quand même bien plus grand
que
ceux d'il y a 10 ans avec l'époque Bojan Maltovic.
Il y a beaucoup plus d'ISO, il y a beaucoup plus de shoot à 3 points, s'est adapté.
Attention à ne pas se fourvoyer sur le niveau de l'Euroleague. L'Euroleague aujourd'hui, c'est beaucoup de pick and roll, comme s'il se fait en NBA, beaucoup de tir à 3 points et beaucoup de 1 contre 1. Le double vainqueur d'Europe.
On n'est pas sûr encore sur du point, pignolage à 3 points.
On se rapproche parce que le double champion d'Europe en titre, c'est peut-être l'équipe qui se rapproche le plus de l'NBA avec un
Donovan Mišić, que du 1 contre 1 et des isolations.
Et c'est pour ça que le coach va aller en NBA.
Exactement.
Ils sont double champion d'Europe.
Double champion d'Europe. Et les big men, Alain Delou, Tibor Pleiss, je suis pas sûr qu'il ait mis beaucoup de paniers en finale de l'Euroleague dans la raquette.
Après, si tu, mis à part les deux dernières années de l'EFS, si tu regardes en Euroleague, un shoot à 3 points, il faut l'amener, il faut le construire et ça devient une vraie plus-value quand tu le sers. Donc c'est pas à foison non plus.
Faisons un peu de basket fiction. Est-ce que les Spurs de Duncan, aujourd'hui, battraient, selon vous, les Warriors de Curry?
Je pense qu'il y aurait une grande souffrance à défendre à la fois sur David Robinson et sur Tim Duncan pour les Spurs. Parce que la philosophie des Spurs, c'était quand même donner le ballon, première option, à Tim Duncan poste bas, qui a quand même beaucoup, beaucoup de choses en magasin pour détruire Draymond Green, je pense. Et qu'ensuite, Tim Duncan est si fort pour ensuite reverser les ballons, parce que les Warriors auraient dû, je pense, trapper poste bas, parce que sinon, Tim Duncan, il fait 40 et 15 toute la soirée. Et les renversements de ballon, que ce soit pour Tipeee, qui est peut-être pas le meilleur tireur à 3 points, mais Manu Ginobili.
C'était pas les plus pourris dans la circulation du ballon.
Je pense que les Warriors auraient été en grande difficulté.
Après, tu mets pas David Robinson et Kawhi Leonard dans la même équipe non plus. Hein.
Tu me dis, on est dans la science-fiction.
Le cycle time.
Je te fais tous les joueurs en même temps. Michael Finley, je te mets tout le monde dans l'équipe des Spurs.
Alex, tu es d'accord avec ça?
Oui.
Donc la question annexe, c'est que c'est donc possible.
Est-ce que tout dépend des joueurs que tu as.
Est-ce que justement, dans la NBA actuelle, il y a une équipe peut-être existante ou fantasmée qui pourrait changer cette destinée-là?
Moi, mon équipe fantasmée, c'est les Sixers. Parce qu'avec Joel Embiid,
qui pourrait s'opposer à ce jeu-là.
Lui, il aurait la capacité justement à faire du post-up, à obliger les mecs à aider. Et si tu l'entoures de gars capables de shooter, je pense que ça peut être très
dommage. Ils auraient pu drafter Tatum, les Sixers.
Même si je joue la malise de temps en temps, bon, ça le dérange pas d'envoyer quelques bombinettes à 3 points. Oui.
Ouais, non, mais quand tu joues contre les Warriors, tu pourrais dire tu restes là, tu nous en mets 30 à l'intérieur, et quand on vient doubler sur toi, tu ressors sur le
Il est quand même dangereux à l'intérieur, ce qui, c'est vrai. Alors, je maîtrise pas comme vous, mais tu n'en as pas beaucoup d'autres évidents qui dominent comme ça dans la raquette.
Moi, je veux voir les Nuggets. Je veux voir les Nuggets la saison prochaine avec Jokic, avec Jamal Murray, avec Michael Porter Jr. avec Aaron Gordon, ce qu'ils vont être capables de proposer. C'est une des rares équipes qui va pouvoir avoir cette alternance-là entre donner ballon en bas à Jokic et ressortir sur le tireur à 3 points.
Même si c'est pas un pivot, il y a quand même Giannis qui fait beaucoup de dégâts aussi.
Giannis fait des dégâts, mais plus dans la percussion, en partant de loin et dans l'agression sur le jeu de transition. Giannis prend des ballons.
On parle d'un point d'ancrage vraiment.
Finalement, est-ce que c'est pas aujourd'hui l'adversaire idéal pour Golden State? Est-ce que c'est pas juste ça le problème, mais la question. Oui, est-ce que les Celtics finalement n'ont pas piocher le meilleur adversaire possible à l'aise dans les équipes fortes, bien entendu? Est-ce qu'ils n'auraient pas été plus en difficulté contre le mieux les Sixers ou Milwaukee? Milwaukee au je complet
sais, oui je sais pas, parce que Al Horford est quand même réputé pour éteindre Joel Embiid. Quant à Robert Williams, quant à Al Horford, quant à Daniel Theis, que tu peux envoyer au feu, les Celtics avaient quand même des armes pour éventuellement défendre sur un pivot de grande qualité, que ce soit Jokic ou
justement,
Joel Embiid.
Moi je te parle du point de vue des Warriors. Est-ce que pour eux c'est pas une aubaine d'affronter les Celtics plutôt que n'importe qui d'autre, Miami, Milwaukee ou les Sixers?
Écoute, je n'ai pas vu la saison régulière qu'ont fait les Warriors. Ils ont quand même tapé tout le monde cette saison. Donc, c'est plus aux équipes à savoir comment défendre sur cette équipe de Warriors plutôt que comment les attaquer.
Mais, et puis, encore une fois, tu n'en as pas 15, à part Joel Embiid ou Nikola Jokic. Qui en vrai pivot capable de pouvoir
dernière gérer chose, ça va continuer cette histoire ou pas? On va continuer sur des tirs extérieurs à foison pendant quelques années?
Pour moi, ça va même empirer.
Tu
vois les statistiques des big men. Jokic, je crois qu'il n'a jamais pris autant de shoots à 3 points sur les dernières saisons qu'avant.
On parle un peu moins du shoot à 4 points là aujourd'hui.
Tu fais bien d'en parler. Même la NBA s'est penchée sur le sujet en disant que comme ça évolue, ils n'arrêtent pas de shooter. Peut-être qu'un shoot à 4 points, reculant encore la ligne.
On a déjà reculé la ligne déjà.
Mais en reculant encore.
En 94-95, on est passé à 7-23. Après Pierrot, quand je vois les gamins qui arrivent, Chet Holmgren là qui arrive notamment, plus Victor Wembanyama qui va arriver, c'est pas des gamins qui aiment bien jouer de haut cercle. C'est des gamins de 2m20, mais qui envoient des banderilles à 3 points. Donc je suis pas sûr que la vision à court ou moyen terme de la NBA soit plus le jeu dans la raquette.
Juste une petite question technique. Si tu recules encore la ligne, quels sont les incidents sur le jeu? Ça t'incite à plus shooter encore ou ça fait de l'espace pour jouer à l'intérieur?
Ça fait les deux. Si t'as une équipe capable de shooter de loin, ça te permet d'avoir, si t'as un pivot dominant, de lui donner des ballons. Et là, la prise à deux, elle est beaucoup plus compliquée.
C'est plus le même sport là. Si tu recules encore la ligne,
je pense qu'un garçon comme Yanis Antetokounmpo serait bien plus dominant si la ligne est encore écartée. C'est-à-dire que les défenseurs adverses, quand t'as des Middleton, quand t'as du Jrue Holiday, ils vont devoir sortir plus loin.
Prendre l'élan et après,
la raquette pourrait être vide.
Alors, on a fait le tour sur la question, Alex.
Je pense.
Ouais.
T'es satisfait?
Toujours nostalgique des années 2000, des Lakers.
Ah, mais j'invite
j'invite les auditeurs à regarder des matchs sur YouTube des années 90 ou à aller regarder les box scores et les stats. Ils vont être surpris. Ils vont être surpris quand ils vont voir 4 sur 10 à 3 points pour les Bulls. Comment ça? Quel joueur?
Les stars avec lesquels j'ai grandi, Pierrot, ils étaient tous à mi-distance. C'était ça le truc beau à voir.
Alors, on continue sur ce spécial final NBA. On va parler d'un joueur en particulier, Draymond Green.
Rodman has picked up three technical fouls already in this series.
Roseanne dunks the ball. Now it wasn't even Lamp. Now Lambert puts it in his face, and here comes Lambert.
Zerbiak is kicked in the face by Bruce Bowen.
Alors, Draymond Green, personnage central de cette finale, on en a parlé avant même que ça débute, hein, qui devait défendre sur Tatum, etc., l'influence, l'importance de Draymond Green. La question dans ce débat historique, quel est le joueur le plus vicieux de l'histoire des finales NBA selon vous? Alors, d'abord en un mot, avant de vous demander votre réponse à cette question, comment vous me décririez le style Draymond Green? Qui est Draymond Green? Quel joueur est-il, Fred?
C'est un joueur qui tchatche beaucoup, qui essaie de te rentrer dans la tête, qui défend dur sur toi, qui est pas avare de petits coups, voire de gros coups, qui a vraiment cette volonté. Il est sur le terrain pour ça. Il est accompagné dans son équipe de joueurs très talentueux, donc il a pas besoin d'être talentueux. Lui, il est là, il fait le taf de l'ombre, il est dur, et il va essayer vraiment de te rentrer dans la tête en te parlant tout le temps, en trash-talkant, et ça doit être insupportable.
Est-ce que tu peux être ce genre de joueur sans être insupportable? Ça existe ou pas? C'est une condition sine qua non.
Pour moi, c'est impossible.
C'est difficile parce que quand t'es un mec qui fait que parler, qui s'embrouille avec les arbitres, qui est à la limite du correct sur le terrain, forcément les médias stigmatisent ce genre de choses et réveillent un public contre toi. T'es forcément obligé d'être insupportable quand t'as ces attitudes-là.
Maintenant, est-ce que tu peux te défendre sans être une tête de lard, ou c'est plutôt recommandé de faire du trash-talking?
Ah oui, mais c'est deux trucs différents. Tu peux défendre dur sur quelqu'un sans le trash-talker, ou tu veux le détruire mentalement et tu le trash-talk en plus
de bien
défendre.
Est-ce que c'est vraiment aussi efficace si t'es clean? C'est pas sûr.
Oh, il y a des défenseurs. Je pense que Rudy Gobert est pas trop dans le trash-talk et fait partie des meilleurs. Marcus Smart est pas trop dans le trash-talk et est lui meilleur défenseur de la saison. Maintenant, Draymond Green.
Donc c'est bien une option, ça.
C'est une option. Après, Draymond Green, défensivement, c'est très fort. Moi, je le vois faire des switches, je le vois garder Jaylen Brown sur des 1 contre 1. Il a une qualité de pied, de vitesse de pied, de latéralité qui est fantastique. Il met son corps en opposition. Il a des lectures et des anticipations. C'est fort, défensivement, c'est fort. Il ne faut pas résumer Draymond Green à j'ai un grand wawa et je fais des fautes de coquin.
Donc, ça, c'est le petit plus.
C'est le petit plus. Défensivement, c'est fort parce qu'il est toujours sous-dimensionné par rapport en général aux adversaires qu'il doit défendre, parce que souvent, il joue poste 5. Il a du cœur, mec. Il a du cœur, il est vaillant.
C'est à qui me fait penser? À Jim Bilba.
Jim Trampoline.
Alors, bien sûr, il n'y a pas le côté tu trash talk, etc. Oui. Mais dans ses positionnements, dans ses anticipations, c'est très impressionnant, effectivement.
Quelque chose à ajouter, Alex?
Il est fort sur deux aspects. Il est fort sur le mental. Avant même le début du match, il est déjà dans la tête de l'adversaire. Et il est fort techniquement. Moi, je pense que Draymond Green, on s'en rendra peut-être un peu compte un peu plus tard encore, mais c'est un des plus grands joueurs de l'ère 2010-2020.
Ah, carrément.
Par contre,
sur son rapport à ce qu'il apporte en termes de bénéfices à son équipe, oui.
Moi, il y a un truc qui me gêne chez Draymond Green. Moi, j'ai regardé le match main, j'ai décortiqué le match main de Draymond Green. Oh, il a les mains pleines de pouces, hein, en attaque.
Alors,
je l'ai vu faire des drop shots qui touchent pas le cercle. je trouve ça très faiblard en attaque, Draymond Green.
C'est pas le premier à être.
C'est pas là-dessus qu'on l'attend.
Mais quand tu joues avec les Warriors, ça m'intéresserait de mettre un petit panier quand même.
Ouais, je connais un Hall of Famer qui pouvait pas mettre un panier à plus de 2 mètres, et encore parfois, et pourtant il a été Hall of Famer. Bah, Dennis Rodman, par exemple. Mm. Alors, il a été très bon en attaque avant, mais après, à la fin,
il en a gagné des matchs sans marquer des points.
Ah oui, mais
parfois, oui, Stephen, mais parfois ça pique les yeux quand je vois les écarts, c'est capable de faire Draymond Green.
Quand Draymond Green va télécharger, comme chaque mardi, ce podcast qu'il va se faire traduire par Mike Pietrus, tu vas le vexer. Puisqu'il a posté très récemment un petit mot sur Twitter. Pas si mal pour un mec qui n'est pas capable de faire une passe.
Oui, ça n'a rien à voir de faire des passes et mettre des paniers.
Suite à son entrée dans le top 10, oui, mais avoir des mains pleines de pouces pour faire une passe, c'est
non,
c'est
mais
pas
là, il a une vraie lecture de jeu, mais là, je te parle sur la finition, j'ai l'impression qu'il n'a pas touché, en fait.
Je précise ça juste parce que vraiment, il a posté ça suite à son entrée dans le top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire en finale NBA.
Et tu sais qui lui a répondu? Kyle Kuzma, il a dit, gros, moi aussi, je pourrais être dans le top 10 si je jouais avec Curry et Clayton Sander.
C'est évidemment.
C'est pas complètement faux non plus.
C'est évidemment à prendre en compte parce qu'il fait fait partie d'une équipe qui a fait combien, 6 finales, c'est ça?
Oui.
Donc évidemment, il dépasse quand même Larry Bird et Kobe Bryant qui, en termes de finale, ont leur mot à dire aussi. Oui. Donc c'est pas si mal. Hein.
Ouais, mais Larry Bird,
même s'il est à des années-lumière de Magic Johnson, évidemment.
Hein. Oui, mais par exemple, tu parles de Larry Bird. Larry Bird, il était sur le terrain pour marquer des points. Non, mais il dépasse, bien sûr, mais c'était pas son option.
Je vais un peu plus loin. Il peut dépasser Scottie Pippen d'ici la fin des finales.
Il peut dépasser Scottie Pippen au 19.
Après, il a des vraies lectures de jeu, Draymond Green, des bonnes orientations de jeu, des skips passes. Après, il se connaît par cœur. Les bons timings, tu sais, c'est sympa de jouer avec Curry et Klay Thompson, mais il faut aussi leur mettre la passe dans le bon timing quand ils sont sortis d'écran, quand t'as le ballon, les renverser. C'est pas uniquement jouer avec Steph Curry et Klay Thompson.
Revenons à notre sujet de départ. Qui est pour vous le joueur le plus vicieux de l'histoire des finales NBA, Fred?
Alors moi, vicieux, j'aime pas tellement le terme. J'allais dire.
Tu sais pourquoi on a pris vicieux? C'est pour pas dire un gros mot, en fait.
Ouais, mais en fait, moi, il y a pas de gros mot. C'est celui qui te rentre le plus dans la tête. Moi, je trouvais que c'était plus sympa comme option. Mais moi, j'ai pris Dennis Rodman. Alors, je ne sais pas si les gens se rappellent, il sort de l'université de Southeastern Oklahoma State University.
Bien sûr.
Donc, drafté en 27e position.
Même Pierrot aurait pu avoir une bourse dans cette fac.
Oui, c'est clairement une fac de seconde zone. Hein. Mais dans cette fac de seconde zone, il finit sa dernière année à 24 points, 17 rebonds de moyenne. Donc, quelqu'un qui était capable de marquer des points. Et il s'est vite rendu compte que... des mecs qui voulaient marquer, il y en avait plein. Sauf que des mecs qui voulaient faire le sale boulot, il n'y en avait pas beaucoup. Donc il s'est dit, je vais faire le sale boulot. Donc il a commencé à faire le sale boulot, à être dur. Il a été 5 fois champion NBA, ce mec, quand même. Hein. 2 fois avec les Pistons, 3 fois avec les Bulls, 2 fois meilleur défenseur de l'année, 7 fois meilleur rebondeur, 7 fois dans la meilleure équipe défensive. C'est un mec qui est capable de te rentrer dans la tête à n'importe quel moment. Quand il tombe avec les bras en avant. Mmh. Il passe devant toi. Moi, j'ai une image quand il joue contre Karl Malone en 98, match 6. Karl Malone provoque une faute sur lui. Et là, on a Rodman qui lui tape les fesses. Et là, on a Karl Malone qui lui tape les fesses. Et ça se renvoie la balle 3-4 fois. Chacun se tape sur les fesses. Il était rentré dans la tête de Karl Malone. On s'en fout que lui, il marque pas de points. Mmh. C'est logique. Sauf que Karl Malone était là pour le faire. Et il était dans la tête de Karl Malone. Donc voilà, pour moi, c'était le joueur rugueux de base. Il faut se rappeler qu'il a joué avec les Bad Boys. Et je pense qu'un de ses exemples, quand il jouait, c'était Bill Laimbeer. Donc forcément.
Et si je ne dis pas de bêtises, malgré toutes ces dingueries et malgré son côté ingérable, Michael Jordan adorait jouer avec Rodman.
Mais parce que c'était quelqu'un qui se donnait à 200% sur le terrain.
C'est peut-être un de ceux qu'il a le moins martyrisé psychologiquement. Non,
il savait qu'il avait besoin de lui. La preuve dans The Last Dance. Quand
on le voit pas trop s'en prendre à Rodman, jamais.
Non, mais même quand Rodman lui dit, écoute, MJ, Phil, j'ai besoin d'un petit break, là, faut que j'aille à Vegas, on est quand même en finale NBA. J'ai dit, bon Phil, vas-y, laisse-le y aller. Il revient, il est quand même en pyjama avec des crocs aux pieds pour l'entraînement. Donc Jordan savait qu'il avait besoin de ça.
Mais on parle d'art et de travail, de qualité de travail. C'était un mec qui était capable de regarder des vidéos de rebond pendant des heures et de savoir exactement ce que faisait chaque joueur pour pouvoir lui parler à l'oreille et lui donner les bons coups qu'il fallait. Je veux dire qu'il massait bien les côtes, lui.
Qui est le joueur le plus vicieux pour toi, Steve?
Moi, c'est Bruce Bowen. C'est Bruce Bowen. Là, on parle de vicieux, j'ai envie de dire dirty. Sale même, Bruce Bowen, c'est un garçon qui a démarré sa carrière en France du côté du Havre et d'Evreux.
Tellement gentil.
Tellement gentil, tellement adorable sur les lèvres. Énorme scoreur en France. Et puis là aussi, il a compris qu'il fallait se spécialiser pour exister en NBA. Pourquoi pour moi, c'est le plus grand...
Ah, c'était un énorme scoreur, lui,
en France,
avant.
Il frôlait les 30 points de moyenne. Ah ouais. Pourquoi pour moi, le plus grand dirty player de l'histoire NBA? Parce qu'il est rentré dans la tête de tous ses opposants avec une technique de salopio, Pierrot. Quand les mecs tiraient à 3 points, Bruce Bowen arrivait et à la réception du tireur mettait son pied en avant, et le mec retombait sur son pied et se faisait une cheville. Vince Carter, Iverson, Steve Francis, Stoudemire, Kobe Bryant, Steve Nash, c'est la liste des mecs qu'il a blessé en mettant son pied en dessous. Ah non, c'est pas beau. On va pas utiliser d'insultes, mais
je pense qu'on peut, presque.
On peut y aller sur lui. Et écoute, lui, il a toujours nié que ça soit fait délibérément. Maintenant, les ralentis, il ment pas, Monsieur Bruce Bowen. On le voyait bien mettre son pied exprès. On a vu des chevilles tourner, les images sont affreuses. Et la preuve que la NBA a estimé que c'était volontaire, c'est qu'ils ont changé la règle maintenant. C'est qu'aujourd'hui, le défenseur ne peut plus rentrer dans le cylindre du tireur à la réception du tireur, ou alors c'est faute automatique pour le défenseur. Et Bruce Bowen, il a siphonné un paquet de chevilles avec cette tactique de Vislar.
Et c'était un élément crucial.
3 fois champion NBA.
De l'architecture des Spurs de Popovic. Très bien. Donc Bruce Bowen, est-ce qu'on a mieux du côté d'Alex, bigger staff? Mieux, entre guillemets. Quoi.
On a peut-être tout simplement le joueur le plus détesté de l'histoire de la NBA. J'ai nommé William Junior Laimbeer. Né en 1957 à Boston, tiens donc, il y a un petit côté caractère, surnommé The Prince of Darkness, Is Heinous, Attention sur la prononciation, ça veut dire Monseigneur Haineux.
C'est un grand trou du cul.
Et qui a fini par être double champion NBA 89 et 90, qui n'était pas le joueur le plus fort, Pierrot, mais par contre qui était très intelligent. Et je pense que ça va un peu dans le moule des cerveaux qu'on a évoqués juste avant entre Dennis Rodman et Bruce Bowen. Il faut savoir être intelligent quand on sait qu'on a une qualité plus que les autres, c'est-à-dire le vice.
Intelligent.
Vice est méchant, Bill Laimbeer.
Vice voilà. Méchant.
Mais a mis des patates pleines bouches.
Mais il faut être intelligent pour savoir.
Mais peur de rien.
Pour savoir qu'on va devoir faire une carrière là-dessus. Parce que, on s'en souvient pas, Bill Laimbeer a démarré en Europe, en fait. C'était un joueur lambda quand il a été drafté. Il est allé à Brescia. Il était à plus de 20 points de moyenne et plus de 12 rebonds en moyenne par match. Donc c'était un joueur profil offensif. Tout ce qui est plus normal. Et c'est quand il est arrivé en NBA derrière. Quand il arrive finalement à Détroit, il fait Cleveland puis Détroit. Et là, c'est un monstre de génie, j'ai envie de dire, dans le génie du mal. Il se dit, je suis limité techniquement, je suis limité, je n'ai pas la vitesse de pied de mes adversaires et tout ça. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais rentrer dans leur tête avant même que le match commence. Et c'est là où lui va se concentrer là-dessus, c'est que Bill Laimbeer, Pierrot, c'est la main sur le short, tout le temps, de l'adversaire.
Dans le short, parfois.
C'est dans le short, parfois. C'est les bras baladeurs, les bras baladeurs pour donner des petits coups de bras dans les têtes des adversaires quand ils sont en plein vol, quand ils sont déséquilibrés. C'est des coups de coude hyper aiguisés qui viennent te gratter les côtes à longueur de temps pendant tout le match. Bref, et pour finir, c'est un trash talker extrême. Il était, mais du matin au soir, dans la tête de ses adversaires. Et il a réussi à obtenir des coups de poing de la part de Michael Jordan, de Larry Bird, de Robert Parrish, de Charles Barkley. Bref, les plus grands de ce sport ont pété les plombs.
C'est un peu le Roy Keane du basket, Pierrot.
Et il a fait l'incident de trop en 94 lorsqu'il prendra sa retraite parce qu'il était tellement dans la haine à l'entraînement. Il a blessé la star de l'équipe, Isaiah Thomas. Il lui a pété le bras à l'entraînement en début de saison. Et pour la première fois de sa vie, il a tellement culpabilisé.
En gros, le mec, c'est un rugbyman, quoi.
Il a tellement culpabilisé qu'il a dit les fans vont me détester, les fans de Détroit vont me détester alors qu'ils l'ont adoré pendant des décennies. Il a dit je vais prendre ma retraite là-dessus parce que je veux pas qu'on m'accuse d'avoir intentionnellement blessé Isaiah Thomas.
Il y a un Bill Laimbeer, c'était important de faire une mention à Bill Laimbeer au moins une fois dans l'histoire de Basket Time. On va terminer avec le quiz. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
C'est pour Julien Lepers.
Ma main, Kyle Quinn.
Qui était le coach du coach à l'université, pardon.
Coco-coach.
Coco-coach, absolument. Qui est le meilleur quoi?
Meneur.
Le scoreur.
Non.
Le scoreur.
Mais non.
Le boomerang, il est parti, mais il revient plus vite. Hein. Tu prends plein de poire. Tac.
Imagine all the people playing for Vincent Collet.
Il était long, ce jingle. Ouais.
Il revient
on
par
a fait un mix. On a fait un mix du premier et puis de d'Ingrid, de Alex notamment, qui chante.
Je l'ai fait une fois et vous l'avez remis 40 fois.
Mais tu crois que j'ai dit Google 50 fois ou quoi?
C'est le principe.
C'est possible, c'est possible.
Donc pour rester un peu dans la thématique du jour, c'est les 3 points la thématique de ce quiz, ok?
La victoire à 3 points?
Alors 3 points, ça peut être large, hein. Ça peut être large. 3 points, ça concerne.
3 points, ça peut être large.
Ouais, ça peut être large. Voilà, okay. Je vous en dis pas plus, mais c'est le thème global.
Genre Nicolas Lang. Genre Nicolas Lang, il se laisse pas Limoges, quoi.
Non, parce qu'il y a peut-être une ou deux, ouais, même peut-être qu'une seule, mais c'est pas grave, question d'actu. Donc c'est pour ça que je vous précise, mais c'est pas grave.
Mais tu connais ton quiz, Pierrot? Tu le découvres en même temps que nous.
Le mec dit peut-être.
Je vous embrouille toujours un peu avant le début du coup, vous avez remarqué. Bon,
oui. C'est un dirty player.
Retenez juste les 3 points. Alors, on va commencer par le 3-point contest de la NBA, d'accord, qui existe depuis le milieu des années 80. Votre question très simple, qui a remporté ce concours le plus de fois? Il est bon. Craig Hodges. Ils sont deux à l'avoir remporté 3 fois. Craig Hodges et Larry Bird, qui a remporté les 3 premières éditions. Craig Hodges, partenaire de Jordan aux Bulls, première époque.
Je ne jouais pas énormément.
Fin de carrière.
Concours à 3 points, il a fait, je crois, il me semble, il a fait une série sur un tour préliminaire. Je crois qu'il n'était pas loin d'avoir le record, Craig Hodges.
Et Larry Bird, incroyable, qui rentrait dans les médias en disant c'est qui va finir deuxième, là.
C'est énorme. Allez, je vous diffuse un petit extrait. Vous allez me dire qui parle et de quoi on parle exactement.
Well, something that you think about as a kid, especially playing basketball.
Reggie Miller.
Even if you never made it to the professional ranks, you always, as a kid, we always grew up. You know, whether you're by yourself or with your friends, you did the 5, 4, 3, 2, 1 countdown, and you made the crowd know you just want to make a shot at the buzzer. And I think, you know, most of us at a professional level hit a buzzer beater of some sort, you know, a half-court shot or something, but That shot game.
Ah, il parle du tir à 3 points contre les Spurs.
Moment, exactement. Ray Allen qui explique que quand t'es petit, tu rêves de mettre un shoot au buzzer, mais celui-là, c'est le plus beau dont il est pu rêver. Ray Allen, absolument, le match 6, donc Miami Spurs, fin de match complètement dingue. Et deuxième point pour Stephen Brun. C'est normal, c'est un spécial 3 points. On attendait pas moins de Stephen quand même, on est d'accord.
On lui laisse celui-là.
Ah, tiens, question d'actu. Question d'actu. Qui a tweeté il y a à peu près 15 jours, un peu plus qui a juste tweeté Giannis. Est-ce que vous l'avez vu passer ça?
Giannis point.
Giannis. C'était le tweet de ce joueur NBA.
Green.
Qui a tweeté Giannis. C'est pas Draymond Green.
Kevin Durant.
C'est pas quelqu'un qui est en finale là. C'est quelqu'un qui est éliminé depuis un bon moment. Sachant que la thématique est.
Trae Young.
C'est les trois points. Donc c'est ce genre de joueur là qu'il faut chercher.
Reggie Miller.
Non, c'est pas Reggie Miller. C'est un joueur en activité. C'est un joueur en activité qui est même le 9e meilleur marqueur de l'histoire en activité.
Meilleur marqueur Dirk.
Non, c'est pas Dirk Nowitzki. C'est en activité. Il répondait en fait à une question sur Twitter. La question était la suivante. Quel joueur choisiriez-vous pour vous emmener en finale NBA?
Ah, Damien Lillard.
Il est là, le cochon. Comment ça t'est revenu, Alex?
Parce que j'ai vu le tweet.
Est-ce que t'as vu le tweet?
Je le mettais pas du tout dans l'actu parce que je l'ai vu il y a un mois, je crois.
C'était le 16 mai, donc c'était à un peu plus de 15 jours.
C'est quasiment un mois.
T'as pas pu le voir il y a un mois, mais c'est pas grave.
C'était le 16 mai, on est le 7 juin. Les 15 jours,
c'est pas un mois quand même.
3 semaines, mais il y a un mois, t'as pas pu le voir parce qu'il avait pas sorti son tweet encore.
J'ai allongé.
Peu importe.
Il va me retirer le point, tu vois.
Non, pas du tout, mais.
Mais Lillard, il aimerait bien avoir Giannis à Portland, c'est
non,
sûr.
Non, mais c'est sympa comme. Non, je trouve ça. Mais
je crois que dans la réponse de ce qu'il a mis, Lillard, t'as eu 50 000 photomontages de Lillard avec le maillot des Bucks dans la foulée, en lui disant viens à Milwaukee, s'il te plaît.
Damien Lillard, donc, l'un des joueurs favoris de Basket Time. Hein. Bonjour, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce quiz. Ça fait 2 points pour Stephen, 1 point pour Alex. Toujours pas de points pour Fred. T'as mis combien de paniers à 3 points dans ta carrière?
3, je crois.
C'est peut-être pour ça.
T'en as pris combien? T'en as pris beaucoup?
Allez, on va essayer.
5, je crois.
Je vais donner des indices pour trouver un joueur, ok?
3 sur 5, c'est un bon pourcentage. Hein.
3 sur 5, ouais, c'est excellent.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. T'as mis 5, donc
meilleur shooter de l'histoire.
Je pense que tu m'étonnes. Tu dois être à 3 sur 20, non?
Ah non.
Ah bon? Bah, bravo, alors. Hein. On va essayer de trouver un joueur. Je vous donne des indices. Je porte le même nom que mon père, champion olympique.
Clay Thompson.
Triple saut en 92.
Bimon.
Avec un bond à 17
Powell.
87. Non.
Mike Conley,
il est là. Le père de Mike Conley est champion olympique du triple saut. C'est dingue, ça, vous saviez ça?
Oui. Non.
Non,
vous savez non.
Et il y a une vidéo qui existe sur YouTube. À l'époque, il faisait des concours de dunk avec des athlètes hors basket et Mike Conley de dunk des lancers francs.
C'est incroyable ça, Mike Conley quand même. 3 points pour Stephen. Alex, 1 point. Fred, 0. Je pense que c'est cuit parce que j'avais un point bonus sur la dernière.
Mais il fait la diff, c'est ça, les quiz à 3 points.
Mais ça ne va pas être possible pour vous de revenir là, je ne pense pas. Cela dit, comme il est très dur, je peux peut-être accorder 2 points.
Fais un shoot à 4 points.
Alors, non, il y a d'abord une question normale. Et sur cette question, il y a un point bonus. Steph Curry domine le classement des meilleurs marqueurs à 3 points de l'histoire de la NBA avec plus de 3000 paniers, plus de 3100 paniers réussis. Dans ce classement, quel est le premier joueur intérieur?
Dirk.
Exactement, évidemment. C'était une question très facile pour Stephen. Dirk est 9e de ce classement. Ce qui est quand même surréaliste, hallucinant.
Les 20 saisons aussi.
Avec 1982 paniers réussis, 38% de réussite.
C'est beau.
Ça reste totalement surréaliste.
Il est à part.
Ah, c'est beaucoup.
Est-ce que vous voulez le point bonus ou...
Vas-y.
Voilà, je ne vous donne pas 4 points pour la question, hein, mais bon, si vous vous amusez. Bah, qui est le suivant? Toujours à l'intérieur.
Deuxième intérieur.
Deuxième intérieur de ce classement, ouais. C'est pas facile. Hein.
C'est connu.
Connu, très connu, ouais.
Mais Larry Bird, il joue encore.
Non. Il joue encore.
Ah, il joue encore.
Il est plutôt sur la fin, hein. Mais il joue encore. Non. Et il a encore un rôle important dans son équipe.
Il a joué depuis 50 ans à Slam.
Oui, mais je sais pas si il tire beaucoup de 3 points.
Le problème, c'est que bon, il joue encore, il est deuxième, il est quand même 43e du classement, donc il va falloir aller le chercher quand même. Hein. Mais vous pouvez y penser. Hein,
Il a un rôle important dans son équipe.
Il a encore un rôle important dans son équipe, même si la jeune génération est en train de le mettre un peu sur le banc. D'ailleurs, il a beaucoup démarré.
LaMarcus Aldridge.
Il a beaucoup démarré sur le banc cette saison.
Non, européen.
Ah, européen.
Non, j'ai pas dit européen.
Ah, mais le deuxième. Ah, intérieur, pardon.
Non, intérieur.
Pardon.
Deuxième intérieur.
Oui, LaMarcus Aldridge, ça marche. Il a beaucoup marché sur quoi?
Il a beaucoup marché sur
Kevin
quoi?
Love.
Kevin Love, ah oui, il est là, pépère. Et bah bravo, je suis content parce que ça t'évite d'être panique. Voilà, tu ne gagnes pas le quiz, ceci étant.
Kevin Love, bravo.
C'est Steve. dire que Brun qui gagne ce quiz. Juste avant de se séparer, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour gagner la biographie, l'autobiographie de Frédéric Weiss. Jusque-là, ça va. Vous vous rendez sur les réseaux sociaux de Basket Time et on vous donnera la marche à suivre pour gagner.
Une belle préface de Jacques Monclar.
Absolument. À la semaine prochaine.
Bye.
RMC Basket Time.